Suivez Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Notre rendez-vous du vendredi dans Priorité Santé, c'est toujours l'occasion de vous donner la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions, y compris celles qui concernent certaines parties de vous-même, de votre corps, que vous cherchez peut-être la plupart du temps à cacher, à oublier. Parce qu'on a beau savoir que personne n'est parfait, eh bien ce n'est pas pour autant que l'on est prête à s'accepter tel que l'on est, telle ou telle partie de son anatomie, peut-être encore davantage quand le corps change. Le nez trop long ou trop petit, les hanches pas assez développées ou trop larges, une cicatrice que le maquillage n'estompe pas, la silhouette qui se transforme, les complexes physiques sont extrêmement variés, même si en fonction des cultures et des stéréotypes véhiculés, il est plus facile d'être ronde sous certaines latitudes que d'autres et encore avec des critères de jugement bien précis. En fonction des milieux sociaux, de l'entourage, certains peuvent avoir tendance à émettre des commentaires sans se douter forcément de l'impact qu'auront ces critiques. Mais quand le doute est là, il peut s'installer, prendre de plus en plus de place, devenir fixation, puis complexe qui se révèle douloureux. Alors, est-ce que l'on peut se défaire d'un complexe installé depuis longtemps ? Comment expliquer qu'un détail de l'anatomie puisse empoisonner l'existence tout entière ? Nous allons parler des complexes physiques dans Priorité Santé, les comprendre, les dépasser et, si possible, s'en débarrasser. Peut-on réapprendre à aimer une partie de soi que l'on déteste ? Pourquoi certaines personnes ont-elles des complexes et pas d'autres ? Comment laisser glisser les observations négatives, les moqueries ? Savoir écouter ce qui rassure et éloigner ce qui dénigre ? Comment retrouver confiance ? Des questions que l'on va aborder en votre compagnie. Mamadou Mbodj, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, vous retrouverez notre rendez-vous avec le carnet de santé, extrait du podcast disponible sur les applis. Reportage coup de cœur aujourd'hui, rencontre avec Thérèse dans sa clinique mobile, avec son équipe sur les pistes du nord du Togo. Rencontre proposée par Charlie Dupiot.
Notre santé, si on en parlait.
Alors Mamadou Mbodj, à partir de quel moment la perception d'un caractère physique se transforme-t-elle en complexe ? Tout simplement, un complexe physique, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont chez l'individu, je pourrais dire, une perception péjorative, ou on peut dire un regard intérieur de dépréciation sur une partie ou sur des parties du corps. Alors, il y a une souffrance qui va avec, dont l'intensité varie d'un individu à l'autre, mais surtout un sentiment de dévalorisation de soi qui pourrait à terme impacter l'image ou l'estime de soi.
Mamadou Mbodj, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des complexes bénins, presque sans conséquence, derrière cette question ? Quand est-ce qu'on doit vraiment se préoccuper de la toxicité, du caractère nocif de certains complexes ?
Mais écoutez, quand on perd carrément sa spontanéité, son naturel dans ses interactions sociales, quand on est envahi par des pensées obsédantes et ce que j'appellerais presque une fixation quasi obsessionnelle de l'individu sur cette partie dépréciée de son corps, où il donne l'impression, si vous voulez, dans ses interactions sociales, que toute son identité se résume à cette partie du corps, ce truc, comme disait une patiente, ce truc avec lequel ou sans lequel, ben, on n'est rien. Avec lequel ou sans lequel, on est déconsidéré.
Mamadou Mbodj, vous êtes un homme d'expérience, hein, et c'est un compliment. Est-ce que vous avez le sentiment que ces complexes sont plus fréquents aujourd'hui ? On va dire qu'il y a quelques dizaines d'années, qu'ils prennent davantage d'importance, de place dans la vie des unes et des autres.
Oui, ben, écoutez, on pourrait le dire dans la mesure. Bon, ces complexes ont toujours existé. Mais ce qui leur donne une plus grande tonalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde et un environnement de l'image où tout ce que l'on donne à voir devient plus important que ce qu'on pense, ce qu'on dit ou ce qu'on murmure, où le faciès de l'individu et son corps deviennent plus déterminants dans ses interactions sociales.
Et justement, par rapport à ce lien social, est-ce que vous avez l'impression que certains milieux, on va dire les populations urbaines, les classes plus aisées ou éduquées, sont davantage sujettes aux complexes que les personnes qui vivent plutôt en milieu rural, avec une vie, on va dire, simple ?
Ben oui, les gens qui vivent en milieu rural sont souvent assaillis par les besoins, par les difficultés de la vie quotidienne. Le souci est moins prégnant, même si on constate aussi ce complexe, mais disons qu'il est souvent relégué au second plan et que la tonalité de la souffrance est moindre par rapport à ce qu'on voit en ville ou dans les centres urbains.
En ville, d'ailleurs, où on a très souvent un écran en main. Hier, c'était peut-être un magazine. Aujourd'hui, ce sont justement les téléphones mobiles.
Les téléphones mobiles. Regardez maintenant, les gens se cognent presque sur le trottoir parce que les gens marchent souvent dans des sens contraires et chacun a devant lui son écran de smartphone, se regardant, se photographiant, préoccupé en permanence par l'image, le faciès et à un autre niveau, par le corps. Qu'on essaie de magnifier, qu'on vend. Alors, pour peu qu'il y ait maintenant, effectivement, quelque chose de disgracieux, très vite, les complexes sont là. Mais la plupart du temps, ce qu'on constate, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, c'est que ces complexes physiques reposent souvent sur des éléments ou critères objectifs qui ne justifient pas du tout l'existence de ces complexes.
Il y a une part d'irrationnel, et on va dire pour autant, hein, ce n'est pas des caprices anodins, c'est parfois des sources de réelles souffrances. Il y a le message de Judriska du Congo, elle écrit sur la page Facebook de l'émission « J'ai 33 ans, je suis complexée par mes jambes arquées. Mes proches me disent qu'elles sont belles, mais j'ai l'impression qu'ils mentent pour m'éviter de complexer. Je trouve que les jambes arquées sont jolies sur les hommes, mais explique encore Judriska, mais pas sur moi. » Alors Mamadou Mbodj, cette auditrice non seulement est complexée, mais elle semble aussi insensible aux encouragements, aux propos rassurants de son entourage.
Oui, et pourtant, il faudrait l'inviter à être un peu plus réaliste. Des jambes arquées, on ne peut pas les réparer. Ce n'est pas possible à l'âge adulte. Et la deuxième chose, c'est que, au lieu de souffrir de ces jambes arquées, peut-être qu'elle gagnerait à essayer de voir comment adapter son habillement à son corps, aux caractéristiques de son corps. Si on veut suivre aveuglément la mode aujourd'hui, déjà, pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à se reprocher, c'est difficile. À plus forte raison maintenant pour des gens persuadés qu'ils ont des caractéristiques disgracieuses, qu'il faudrait être un peu réaliste, essayer de s'habiller en conséquence, adapter leur style vestimentaire aux formes de leur corps et essayer surtout de mettre l'accent sur ce qu'ils aiment en eux et de reléguer au second plan ce qui les gêne en eux.
On a Judriska, donc plutôt insensible. À l'inverse, il y a Louisette de RDC, elle aussi sur Facebook. Elle écrit qu'elle a des vergetures sur les cuisses qui l'ont complexée il y a quelques années. Elle ne voulait même plus aller à la piscine. Mais Louisette a rencontré d'autres femmes qui en avaient autant, voire plus qu'elle. Et ça l'a aidée à surmonter ce complexe. Là, Mamadou Mbodj, on perçoit l'influence positive de l'environnement.
Absolument. Mais il n'y a pas que l'environnement. Il y a également la lecture qu'elle a su faire de ça, les leçons qu'elle a pu tirer de ces femmes autour d'elle. Mais il y a également sa propre personnalité. Peut-être que c'est un individu qui a un ancrage social, socio-familial considérable, ou tout simplement une estime d'elle qui est restée plus ou moins intacte malgré la souffrance qu'elle a pu avoir pendant quelques temps, de ses vergetures et autres.
Alors tout de suite, des premiers témoignages dans Priorité Santé. C'est notre palabre féminin. Cette semaine, une première escale au Togo à Lomé avec notre reporter Raphaël Constant qui a rencontré deux auditrices, Émilie, maman de 3 enfants, et Assa, la mère de 2 enfants, c'est cette dernière qui entame la discussion.
Quand j'étais plus jeune, à l'école, je voulais à tout prix faire du basket pour être un peu plus grande. Donc j'avais ce complexe de taille, je me trouvais un peu trop petite.
Parce que vous mesurez combien ?
Je fais 1m63. Ça va, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais des amies qui étaient un peu plus grandes que moi, donc je voulais être comme elles. Et j'ai développé ce complexe longtemps. Mon frère, il disait, je suis grand, ma sœur aussi, je suis grande. Ben, toi, tu es la plus courte, en fait, tu ressembles plus à notre maman. Bizarrement, c'est rentré dans ma tête. Et puis, je me suis dit, il fallait que je sois grande aussi. Et j'ai développé un complexe comme ça, sans le savoir. Ce complexe est passé complètement parce que quand j'ai rencontré mon mari, il était juste légèrement un peu plus grand que moi. Donc, j'ai oublié ce complexe parce qu'on s'est rencontrés très jeunes. Mais aujourd'hui, je travaille avec des collègues qui sont très grands et il m'arrive d'avoir encore ce complexe, mais je n'en fais plus toute une histoire. Je me dis, bon, ils sont grands, moi je suis petite. Et puis après tout, ça existe, hein, des femmes petites.
Et pourquoi il fallait être plus grande ?
J'enviais les grandes personnes, en fait. Celles qui avaient une taille élancée, je les enviais et je les trouvais beaucoup plus belles, entre griffes. Quoique j'avais aussi des atouts, mais je pensais que quand on avait la taille, on était belle. Mais après, je me regardais dans le miroir, je me disais, mais en fait, pourquoi développer un tel complexe ? J'avais tout, j'ai un beau visage. Donc, je me suis beaucoup plus basée sur mes atouts et puis j'ai oublié ce complexe-là.
Pour moi, de mon côté, je vois que je ressemble à un homme. Je me trouve trop musclée. Par exemple, quand je tiens mon bras, je vois que ça a de la tonus. Tout ce que je fais, je travaille comme un homme. C'est ce qui m'a poussée aussi à faire un travail d'un homme, parce que je suis technicienne en froid. Je répare les clims, et les frigos, les gazinières, c'est ce que je fais. Avant, quand je porte les habits que les femmes portent, je ne me sens pas à l'aise dedans. Je portais seulement des jeans pantalons. Avant, ça me fait mal. Pourquoi Dieu m'a donné cette forme? Mais maintenant, j'ai compris que c'est comme ça que je n'ai. Donc maintenant, ça me donne de la joie. J'ai plus de force.
Vous avez appris à vous accepter?
Oui, un peu, un peu.
Oui, bon, être complexée par ses muscles, bon. Par rapport à ma fille aussi, elle développe un peu un complexe de forme, je dirais. Parce qu'elle pèse 80 kilos pour 1m65. Elle a 14 ans. Donc elle se trouve trop forte. Tout le temps, elle se dit, elle n'est pas belle. Maman, je ne suis pas belle. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, elle est trop grosse. Elle fait du sport à l'école. Mais ça ne suffit pas. Parce que je crois qu'en voyant ses copines, elle aimerait être maigre comme ses copines. Et ce qui est triste, c'est que ses copines ne lui rendent pas service parce que tout le temps, on la traite de grosse, alors qu'elle n'est pas la plus grosse de la classe. Et puis, elle est jolie, ma fille. Donc, les copines lui disent tout le temps, mais t'as un tas de pâtes. Chez nous, la pâte au Togo, c'est la pâte de maïs ou bien de mil qu'on prépare et on entasse. Et ça a une forme assez gonflée, donc on la taquine. Pâte de maïs, pâte de mil. Donc, un après-midi, je suis allée la chercher à l'école. Elle était carrément en pleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle dit, non, ma meilleure amie, ma meilleure copine m'a dit, non, je suis trop grosse. Je ressemble à un éléphant. Elle pleurait. J'ai failli pleurer aussi parce que j'étais trop triste. J'ai dit, mais comment les enfants peuvent être méchants entre eux comme ça? Et en plus, c'était sa meilleure amie. J'ai dit, mais nous, à notre époque, qu'on appelle meilleure amie, c'est quelqu'un qui te défend, qui partage tout avec toi. Mais elle est très complexée, très complexée. Quand elle s'habille, elle ne porte jamais de débardeur. Même en maillot, elle veut un maillot qui lui couvre tout le corps. Elle est encore jeune et je ne sais vraiment pas comment l'aider. Hein.
Avec l'âge, elle va comprendre. Comme vous avez dit, qu'elle porte des habits trop longs pour cacher son nom, si je le fais. Chez nous, on dit, mais toi, la femme musclée, ça me fait mal quand même. Mais aujourd'hui, si tu me dis ça, je suis fière parce que je dis, oui, je suis là. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main tout à l'heure. Je dis, ah, ça va, ça va, ça va.
Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont nourries et blessées par ces complexes physiques qui peuvent, il faut le dire, pourrir la vie?
Il faut assumer ce que tu es. On est différemment. Chacun est avec sa forme, chacun est avec sa taille. Vous êtes belles comme vous êtes, mesdames. Franchement, on est toutes belles, en fait. On est toutes belles, en fait.
Des propos recueillis par Raphaël Constant. On l'a entendu faire de sa différence une force. Mamadou Mbodj, il y a des complexes, mais il y a aussi la méchanceté pure et simple.
Absolument. Maintenant, comment s'armer face à cette méchanceté? Et là, c'est un appel qui va être lancé aux parents pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'enfance et de l'adolescence comme période de vulnérabilité profonde et où la sécurité qu'on est censé assurer à l'enfant, les assurances qu'on est censé fournir à l'enfant sont aussi essentielles que la nourriture qu'on lui procure, et notamment à l'adolescence, qu'il y ait une période de fragilité avec tous les changements liés à la poussée pubertaire, tous les changements que ça comporte et notamment les transformations du corps avec un faisceau d'émotions auquel l'individu n'est pas préparé. Donc les jeunes, souvent adolescents, notamment chez les filles, et durant lesquels ils ne sont pas accompagnés par la famille. Sinon, c'est des moqueries ou le regard concupiscent des hommes sur la poitrine qui poussent, sous les fesses qui sont là. Et malheureusement, bon, ben, s'il n'y a pas d'humour, je veux dire que ces jeunes sont souvent livrés à elles-mêmes. Et il est important, une de vos auditrices le disait tout à l'heure, son souci par rapport à sa fille, je pense qu'il y a déjà une très grande conscience de cette femme et qu'elle répond elle-même à la question qu'elle pose sur comment aider sa fille. Je pense qu'elle l'est déjà par la conscience qu'elle a de ce que vit sa fille, le souci qu'elle a et la proximité qu'elle développe avec son enfant.
Et on va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et avec nous en ligne, Audi, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé.
Alors, vous avez 34 ans, mais il paraît que vous ne faites pas votre âge. Qu'est-ce que ça veut dire, Audi? Expliquez-nous pourquoi.
En fait, je fais 1m56. En plus d'être petite de taille, je suis petite de forme. Je donne l'impression d'être une adolescente.
Et vous êtes une maman, hein, Audi, c'est ça?
Oui, je suis maman de 2 enfants.
Et des fois, ça vous vaut des commentaires, justement, parce qu'on vous croit extrêmement jeune quand vous êtes avec vos enfants?
C'est ça, exactement. On me croit extrêmement jeune. Des fois, c'est des commentaires du genre, comment t'as fait pour les mettre au monde? Comment t'as fait pour les allaiter? En plus d'être petite, j'ai une petite poitrine. Donc, du coup, des fois, quand t'es au milieu des dames, et puis elles te sortent ce genre de commentaires-là, c'est vraiment un peu dur à supporter des fois.
Alors, est-ce que dans votre vie professionnelle, Audi, cette question de la corpulence, de la taille, ça vous pose des problèmes?
Oui, souvent quand je vais à des entretiens d'embauche et que je vois des personnes qui ont des tailles, je dirais, normales en crise, je panique un peu. Et même professionnellement, quand les gens ne sont pas habitués à moi, quand ils me voient, la première impression qu'ils ont, c'est qu'on est en face de nous, une petite fille, en fait. Donc, ce n'est pas une dame, mais tout et tout. Donc, il faut que les gens s'habituent à moi. Ils finissent par voir réellement mon âge pour savoir que je ne suis pas une petite fille, en fait.
Mais 1m56, ce n'est pas ça qui rend beaucoup plus jeune. Vous avez des traits très jeunes, parce que je vais vous faire une confidence, Audi. Je fais 1m57, mais je peux vous assurer qu'on ne me prend pas pour une petite fille. Alors, comment ça se fait? Vous avez des traits très jeunes, en plus. Ben, c'est plutôt un atout d'avoir l'air jeune. Je pense que dans quelques années, vous en serez ravie d'avoir l'air jeune. Moi, si vous voulez, je veux bien. Retirez-moi 20 ans tout de suite, je ne suis pas contre. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos proches, dans votre entourage? Votre mari, il dit quoi?
Vous
êtes à son goût? Il ne vous prend pas pour une... Il vous a connu à quel âge, votre mari?
Quand j'avais 20 ans.
Et quand vous aviez 20 ans, vous aviez l'air d'avoir quel âge?
J'avais l'air encore beaucoup plus jeune.
C'est pas Audi, c'est la machine à remonter le temps. Est-ce qu'il y a plutôt de la bienveillance autour de vous? On vous dit, Audi, t'exagères un peu avec cette histoire d'âge, t'es parfaite comme t'es d'accord, t'es menue, mais t'es toute jolie. Qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous?
Et quand ce sont des dames qui ont l'air beaucoup plus, je dirais pas vieilles que leur âge, elles me disent, oh, t'as de la chance, tu fais super jeune. Tu vas voir, dans 20 ans, ton mari sera plus vieux et toi, tu seras encore toute fraîche et toute belle.
Oui.
Mais bon, quand c'est des personnes que je ne connais pas du tout, c'est un peu frustrant quand même quand quelqu'un ne vous connaît pas et qui tout de suite pense que vous êtes son cadet. Vous savez, chez nous en Afrique, le droit de l'aise, c'est assez important quand même.
Oui, ça impose le respect. Mamadou Mbodj, on entend Audi qui a besoin d'avoir confiance en elle pour en finir avec cette forme de dévalorisation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Elle est victime, en fait, de ses atouts, parce qu'il y en a dans ce qu'elle dit. Et qu'il faudrait peut-être que tous les matins et tous les soirs, qu'elle refasse une liste de ses atouts, en se focalisant moins sur ce qu'elle déplore et plus sur ce qu'elle a pu réaliser. Parce que quand on l'écoute, elle a des enfants, elle a un travail, elle a un mari qui l'aime et qu'elle aime, donc un mari qui ne voit pas du tout elle, ce qu'elle déplore chez elle. Elle est entourée de gens... Hein, même s'il y a de l'humour, un peu de dérision sur son complexe, je pense qu'il serait judicieux qu'elle se focalise davantage sur ce qu'elle a pu bâtir autour d'elle et faire moins attention à ce qui se passe, à ce dont elle est persuadée que ce sont des défauts ou un complexe. Parce que personne, à part les gens qui ne la connaissent pas ou à part un peu l'humour autour d'elle, parce qu'elle serait aujourd'hui seule, célibataire, sans enfant, sans aucun homme qui s'occupe d'elle, qui la regarde, etc., sans travail. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et là, elle est en train de réaliser tout ce qu'un individu normal rêve de réaliser dans la vie. Peut-être qu'il faudrait juste maintenant qu'elle aille voir un thérapeute qui puisse l'accompagner pendant quelques temps pour modifier un peu l'image qu'elle a d'elle et à peut-être reléguer au second plan un peu ce qu'elle estime être son venin ou ce qu'elle estime être en tout cas ce qui lui l'empêche de vivre convenablement.
Voilà pour cette réponse. On vous remercie infiniment, Audi. Merci beaucoup pour cette participation. Double merci. Puisque c'est aussi vous qui avez choisi notre chanson du jour dans Priorité Santé, un titre de Fally Ipupa, 8e merveille. On se retrouve juste après avec d'autres questions d'auditrice, Mamadou Mbodge.
Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi la tristesse ne m'empare. Si tu savais ce que ça fait de te regarder. Mais la vérité, c'est que le temps, lui, ne nous attend pas. Non, laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveilles, sans toi je perds le sommeil. Tes peines, plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes dans ma huitième merveille. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. Tant d'amour à donner, na ben ayo maman. Tant d'amour à donner, pour yo maman. Pour toi je peux tout donner, c'est vrai maman. Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé.
Priorité santé sur RFI, dépasser, se débarrasser de ses complexes physiques. Aujourd'hui, dans notre émission Questions de femmes, toujours en compagnie de Mamadou Mbodge, psychologue et psychothérapeute à Dakar au Sénégal. Il y a la taille, mais aussi le poids qui complexe, comme pour Karine de Côte d'Ivoire. Elle, ce sont ses bras qui la gênent, elle les cache, elle ne va plus à la piscine. Ça a empiré, c'est ce dont elle témoigne sur Facebook, depuis sa grossesse. Finalement, elle ne se prend plus en photo ou alors elle fait des grimaces et les proches de Karine qui sont au courant l'encouragent, la complimentent, mais ça ne marche pas tout de même. On part pour le Cameroun, à Yaoundé, où l'on retrouve Bertie. Bertie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, Bertie, c'est votre poids qui vous complexe. Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien vous pesez aujourd'hui, Bertie ?
Aujourd'hui, j'ai pratiquement 102 kilos.
Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui vous gêne particulièrement ?
Oui, ma poitrine.
Vous la jugez comment, votre poitrine ? Trop grosse ?
Trop grosse, assez forte.
Est-ce qu'il est arrivé que des personnes se moquent de vous à certaines périodes de votre vie ? Tout à l'heure, on avait la fille d'une auditrice dans le reportage de Raphaël Constant qui disait « On me dit que je suis trop grosse, je suis à l'adolescence ». Est-ce que vous aussi, c'était pendant l'adolescence ?
Oui, chez moi, c'était pendant l'adolescence. Les camarades se moquaient beaucoup de ma poitrine. On m'appelait d'ailleurs Mania Saba.
Ça signifie quoi ?
C'était le nom d'une sorcière dans un film nigérien.
Et qui vous appelait comme ça ? Les garçons, les filles, c'était qui ?
Les garçons et les filles.
Et comment vous réagissiez à ce moment-là ? Vous défendiez ou vous alliez plutôt vous cacher ?
J'étais mal à l'aise, je me cachais, j'avais beaucoup honte. Je faisais tout pour porter des vêtements qui allaient serrer la poitrine.
Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme. Est-ce que ça a changé ce rapport à votre corps et à vos seins en particulier ? Parce que, à l'inverse, on sait que pour beaucoup de personnes, je pense aux hommes en particulier, ça peut être un véritable atout séduction.
Oui, c'est ces dernières années que c'est un atout de séduction, mais avant, les hommes se moquaient quand les femmes avaient de fortes poitrines. Ils préféraient des petites poitrines. Mais aujourd'hui, quand tu as la poitrine, tu es plutôt à la mode, tout le monde veut te conquérir juste pour avoir l'opportunité de toucher la poitrine. C'est juste ça.
Est-ce que du coup, avant comme aujourd'hui, cette poitrine, elle vous dérange, votre corpulence, elle vous dérange et vous complexe encore?
Oui, ça me complexe de plus en plus, surtout que après mon accouchement, j'ai encore pris une vingtaine de kilos que je n'arrive pas à perdre. C'est deux fois plus gênant qu'avant, en fait.
Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui, Bertille?
Oui, j'ai un copain.
Et il vous trouve comment, ce copain, ce bon ami?
Ça ne le dérange pas, il n'est pas complexé. Il me dit qu'il m'aime et qu'il ne gère pas les jugements des uns et des autres parce qu'il y a des personnes qui font des jugements, justement, vis-à-vis de la...
Mais est-ce qu'il vous dit que vous êtes jolie, que vous êtes belle?
Oui, il me le dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est juste que parce que je suis sa copine.
Vous pensez qu'il est peut-être pas sincère quand il vous dit ça?
Parfois, je me dis.
Et sur cette question de poids que vous jugez excessif, est-ce que vous avez déjà consulté?
Oui, j'ai consulté une diététicienne.
Elle vous a aidé?
Oui, elle m'a donné un programme que je n'ai toujours pas suivi jusqu'à maintenant, pour être honnête, parce que je ne sais pas ce qui arrive. J'ai l'impression que je de plus en plus, j'ai une grosse faim. Avant, je mangeais très peu, mais maintenant, j'ai juste envie de manger tout le temps, envie de manger, de grignoter. Je ne sais pas ce qui m'arrive moi-même.
Est-ce que vous vous sentez un petit peu déprimée, Bertille?
Oui, j'ai beaucoup déprimé.
Et vous faites le lien entre ces petits passages à vide et la nourriture?
Je me dis parfois, quand j'ai pas faim, mais ma bouche veut juste faire des mouvements. C'est comme si quand je stresse un peu, je me réfugie directement sur la nourriture.
Mamadou Mbodj, c'est vraiment très intéressant ce que vient de nous dire Bertille. Elle nous dit que c'est difficile pour elle-même de dire « je suis jolie », même quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, et puis qu'elle n'a pas l'air d'aller très très bien.
Oui, et que 100 hommes auront à le lui dire, ça ne suffira pas, parce qu'elle ne pourra pas l'entendre. Je pense qu'il faudrait qu'elle arrête moins d'attendre des hommes, de leur déclaration ou du regard des hommes, la solution à ses problèmes, et qu'elle commence à travailler sur elle-même. Bon, il y a une première initiative qui a consisté à voir une diététicienne, qu'elle essaie pour l'instant, pendant qu'elle est en train de chercher une solution à son surpoids, qu'elle essaie de s'habiller en conséquence. Parce que souvent aussi, il y a une sorte de déni qui consiste devant le surpoids à vouloir mettre des tenues qu'on mettait 5 ans ou 10 ans auparavant, sans tenir compte des changements connus par le corps, et que entre le corps d'une jeune fille de 15 ans et celui d'une jeune femme de 29 ans, il y a quand même une bonne différence. Il faut qu'elle cherche les solutions moins dans les compliments que les hommes pourraient lui faire, mais en travaillant sur elle, notamment auprès d'un thérapeute, pour essayer d'apprendre à se réconcilier avec elle-même.
Bertille, vous avez déjà envisagé d'aller en parler non pas avec une diététicienne ou une nutritionniste, mais plutôt avec quelqu'un pour en parler, pour vous dire comment vous vous sentez, pour essayer d'aller mieux sur le plan de votre santé mentale?
Non, c'est vrai que je devais le faire parce que honnêtement, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 18 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 29 ans, je me suis fait agresser et violer, et là j'ai refusé de rencontrer un psychologue parce que...
Donc vous avez subi des violences sexuelles, et après vous avez pris du poids très vite, c'est ça?
Oui.
Ouais. Donc effectivement, Mamadou Mbodj, cette recommandation d'engager un travail thérapeutique, c'est absolument essentiel, d'autant plus que Bertille, on avait préparé avec elle cet entretien, elle n'avait pas révélé ce traumatisme qui est vraiment très important dans la vie d'une femme, et donc effectivement, dans ces cas-là, il faut se faire aider.
Oui, parce que souvent, l'expérience nous le montre, c'est que dans la plupart des complexes physiques, les parties du corps objets de ce complexe ne sont souvent que des zones de polarisation, de tension ou de conflit ou de traumatisme vécu dans l'enfance et souvent réactualisés par la poussée pubertaire au moment de l'adolescence. Donc, la problématique que vivent ces individus, comme Bertille aujourd'hui, dépasse la simple et banale portion du corps objet de son complexe et pose une problématique plus globale qui concerne son être.
Ça prend une résonance complètement différente, ce témoignage.
Absolument, absolument. Il faudrait qu'elle voie quelqu'un, un thérapeute, pour travailler sur elle.
Donc, ces encouragements, Bertille, on vous dit beaucoup de courage à vous et on va partir maintenant pour le Congo.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
En ligne avec nous, Suzy, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 48 ans et il y a maintenant plus de 5 ans. Quelle intervention avez-vous subi, Suzy ?
Il y a 5 ans de cela, j'avais subi une mastectomie, donc l'ablation d'un sein.
C'était après un cancer du sein ?
À peu près cela, oui.
À peu près cela. Alors, après l'opération, est-ce que vous avez été accompagnée sur le plan psychologique ?
Oui, à l'époque, oui, j'ai été accompagnée sur le plan psychologique. Bon, à l'hôpital, il y avait des groupes de parole et lors des groupes, et chacun témoignait et c'était une façon aussi de se consoler.
Vous dites de se consoler, est-ce que ça veut dire qu'à la fin de ces séances, vous aviez moins de peine et que votre corps est changé ou est-ce que finalement, ça a toujours été présent, cette douleur de la perte du sein ?
C'est après l'opération, en fait, avec la prise en charge psychologique, je n'avais pas de problème. Mais à l'époque, j'avais un compagnon et je croyais qu'il pouvait me soutenir pendant ce moment. Et lors des petites disputes, il m'insultait. Il me disait que je n'étais plus une femme. Va te mirer, est-ce que vraiment tu es encore une femme ? Regarde bien ton corps, est-ce que tu es encore une femme ? Et c'était ce genre de propos que je trouvais déplacé. Et il me disait que je n'étais plus une femme, en fait. Et après, il m'a dit « Aucun homme ne voudra d'une femme sans sein, avec un seul sein, en fait. » Et pour le prouver du contraire, et je l'ai quitté. Et je me suis, à l'époque, mise, il y a 3 ans de cela, avec un autre. Lui, il me comblait, et il me disait qu'il n'y avait pas un problème. Mais lors d'une une petite dispute, il allait voir ailleurs. Et cette dernière-là, je vais la rencontrer au marché, en plein marché. Elle va m'insulter. Elle va me dire, elle disait parler haut et fort. Elle disait, ne la regardez pas comme ça. Elle semble belle, mais qu'elle se déshabille. En fait, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Elle n'a pas de sein.
Donc là encore, vous avez été insultée, vous avez été salie, ça vous a fait énormément de mal. Est-ce que vous arrivez encore à prendre soin de vous, justement, quand vous sortez, quand vous allez dans la rue, voir des amis, vous habiller en faisant attention, à vous trouver encore jolie, Suzy ?
Oui, oui, je me trouve jolie, mais c'est avec, j'ai compris que c'est avec les hommes où ça ne tient pas à mon intimité, vraiment. Je trouve que je ne me sens pas à l'aise.
Est-ce que vous avez l'impression, Suzy, excusez-moi, d'être mal tombée ? Ou est-ce que vous avez l'impression que ce sera avec tous les hommes la même chose ?
Oui, vraiment. Le premier, c'était pareil. Le deuxième, j'ai vraiment peur de m'engager dans une nouvelle relation, d'aller voir un troisième. Et du coup, je supporte jusqu'à me faire une chirurgie réparatrice.
Alors, moi, je vais me tourner. C'est très intéressant, cette question de la chirurgie réparatrice. On va y revenir avec vous, Suzy, mais je voudrais demander d'abord à Mamadou Mbodj. Est-ce que là, on peut vraiment parler d'un complexe ? Parce qu'il y a vraiment des traumatismes. Il y a eu la maladie, la chirurgie et le dénigrement. Elle a été attaquée, Suzy.
Oui, elle a été attaquée et elle a été confrontée à la bêtise humaine, à la méchanceté. Et moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que si elle a pu surmonter cette mastectomie aujourd'hui en attendant la chirurgie réparatrice, si elle a rebondi et retrouvé un peu goût à la vie, notamment avec les séances de parole, les groupes de parole auxquels elle a participé, l'opération, c'était pour l'aider à débarrasser son corps de la maladie. Maintenant, il ne faut pas qu'elle laisse des idiots immatures, méchants, venir lui enlever cette joie de vivre. Elle a surmonté la maladie. Il faudrait qu'elle parvienne à surmonter cette bêtise humaine progressivement, qu'elle n'hésite pas à rencontrer des hommes. Peut-être qu'au quatrième, au cinquième ou au sixième homme, ben elle trouvera l'homme qu'il lui faut. Un homme suffisamment mûr pour la voir, elle, dans son ensemble et non pas elle qui a été amputée d'une partie de son corps.
Avec tout le courage qu'elle a déjà eu pour surmonter tout ça. Suzy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, merci pour ces conseils. Vraiment,
C'est vous la courageuse du groupe, parce que eux, ils n'ont que les mots les plus sales et les plus cruels à la bouche. Mais vous, vous avez eu une maladie, vous l'avez surmontée, vous avez surmonté la chirurgie, vous avez fait tout ce travail. C'est vraiment un environnement qui vaut pas la peine, quoi.
Oui, c'est effectivement cela. Mais j'attends quand même, j'attends ma chirurgie, en fait. Ouais.
Et vous allez la faire où, cette chirurgie? Est-ce que c'est déjà programmé?
Oui, c'est pas vraiment programmé parce qu'au Congo, ça ne se fait pas.
Ouais.
Donc, il faudrait tout un budget pour faire un voyage à l'extérieur.
Mmh. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment en tête, Suzy?
Oui, oui, ça me tient à cœur, franchement, pour affronter le regard de notre homme, en fait.
Mmh. Ben, on vous dit très bonne continuation, encore beaucoup de courage, parce qu'il va encore en falloir. Mais a priori, vous n'en manquez pas. Mamadou Mbodj, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je veux dire que la femme forte, la femme coquette, la femme battante qui a fait face à la chirurgie, qui a fait face à la maladie, qui a fait face à la chirurgie, devrait pouvoir faire face à cette bêtise humaine, à ces hommes. Il faut qu'elle retrouve confiance en elle et qu'elle ne mise pas tout sur la chirurgie réparatrice. D'ici qu'elle la fasse, si ça lui fait plaisir, il faut qu'elle travaille sur elle-même.
Mmh. Voilà, et une partie de son corps que l'on n'arrive plus à montrer, c'est également le cas pour Chimène du Cameroun. Elle a laissé un message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à toute l'équipe. J'espère que vous allez toutes bien. J'ai 24 ans et mon complexe à moi, c'est ma cicatrice que j'ai au pied. Depuis mon enfance, ça m'a toujours gênée. En fait, je suis styliste modélisme et à chaque fois que je confectionne un vêtement pour moi, je pense à ma cicatrice. Il faut que ça soit assez long pour la cacher parce que je suis très gênée quand on la voit et ça me dérange beaucoup. Parfois, ça donne la blessure. Après, ça guérit. Je suis partie à l'hôpital l'année passée avec... J'ai fait enlever la peau et après, ça a cicatrisé de la même manière. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire là maintenant. Parfois, je pense m'en faire une greffe de peau. Oui, j'en ai parlé à mon entourage et c'est plutôt cher. C'est très cher, c'est très coûteux et je ne peux pas me le permettre en ce moment. Donc, ma question, c'est comment faire pour m'enlever cette idée-là de la tête, pour que ça ne me gêne plus, pour me sentir à l'aise quoi, dans ma peau quand je m'habille, pour être mieux, pour vivre mieux, parce que ça me gêne énormément. Alors, merci.
Alors là, on entend vraiment hein, cette cicatrice qui fait blocage. Comment dépasser la blessure, Mamadou Mbodj? C'est bien la question qui est posée par Chimène.
Oui, alors j'ai envie de dire à Chimène que d'ici qu'elle fasse cette opération, elle est tenue de vivre, elle est tenue de travailler. Donc comment laisser respirer sa cicatrice? Comment laisser cette cicatrice faire partie d'elle? Et que ce qui aidera les gens autour d'elle à accepter et à ne pas lui renvoyer un regard réprobateur ou de désapprobation, c'est la manière dont elle va porter avec aisance, surtout pour une styliste, cette cicatrice-là. Ça, c'est une première chose. Elle ne peut pas la dissimuler. Et ce qui accentue souvent la souffrance et le mal-être, le manque de naturel des individus victimes de complexes physiques, même si ces complexes sont difficilement réparables, c'est qu'elles se mettent dans des postures incommodes, de gêne, de conduite d'évitement, de dissimulation, de manque de spontanéité, de naturel, là où elles sont tenues de, j'ai presque envie de dire, d'exhiber. C'est-à-dire que si elle parvient à accorder moins d'importance à cette cicatrice et à se pencher davantage sur son travail de création, je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider et peut-être même qui pourrait rendre superflu pendant un temps cette greffe de peau qu'elle rêve de faire un jour. Et elle ne devrait pas non plus conditionner son bien-être, son existence, son avenir, son épanouissement à cette cicatrice le jour où elle sera réparée. On n'y est pas pour l'instant. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle s'épanouisse, il faut qu'elle construise sa vie, qu'elle considère juste cette greffe de peau comme un projet à moyen ou long terme. Mais en attendant, il faut qu'elle vive.
Voilà pour ces conseils. On va prendre une dernière question d'auditrice. Et c'est en ligne du Mali, hein, de Bamako, que nous retrouvons Danaba. Bonjour.
Bonjour.
Alors Danaba, vous êtes la maman de deux enfants, vous avez 33 ans. Et on va dire, un peu comme tout le monde, un ventre un petit peu plus arrondi après les grossesses. Alors c'est ce changement qui vous pose problème aujourd'hui?
Oui, en fait, ce changement me pose problème pas à cause de moi-même, mais plutôt à cause des autres, avec les jeunes filles avec lesquelles je vis, qui trouvent que quand je m'habille avec mon ventre arrondi, mes habillements ne me vont pas comme il le faut.
Vous avez dit des jeunes filles, ces filles, elles ont des enfants?
Elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas mariées. Ce sont des nièces à moi.
Et quand ces jeunes filles vous font des critiques sur votre ventre de maman, je m'excuse de poser cette question, Danaba, Vous ne leur dites pas tout simplement, mais moi j'ai eu deux enfants. Vous, quand vous aurez eu des enfants, vous allez me ressembler?
Oui, j'ai l'habitude de leur dire cela, mais elles me disent souvent, oui, nous aussi on a des grandes sœurs qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui n'ont pas les ventres aussi arrondis que le nôtre. Donc, c'est ce qu'elle trouve à me dire.
Et votre époux, parce que j'imagine avec ses deux enfants, il y a quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, il en pense quoi de ces critiques?
Lui, il n'a pas de problème. Ce côté, il trouve même que c'est des faux problèmes. Selon lui, c'est des faux problèmes. Mmh. Et il me dit, lui, il me trouve parfait comme ça. Donc, je n'ai pas les écouter.
Mais vous, Danaba, aujourd'hui, vous avez 33 ans. Je vais encore vous poser une question peut-être un petit peu embêtante. Comment ça se fait que vous vous faites influencer par des jeunes filles comme ça qui finalement, non pas que les jeunes n'aient rien à dire, hein, loin de là, mais qui n'ont pas vraiment d'expérience, pas vraiment de recul? Comment ça se fait que ces critiques vous touchent?
Oui, c'est ça mon problème. Il suffit que quelqu'un me critique pour que je commence à sentir la lourdeur de cette critique-là. Mmh. Une fois qu'on me critique sur quelque chose, je n'arrive pas à m'en sortir de là.
D'accord. Donc, vous êtes très, très influencée par les choses négatives qu'on peut vous dire, même si d'ailleurs elles ne sont pas du tout fondées. C'est des choses qui vous font du mal.
Effectivement, je suis naturellement comme ça.
Danaba, alors j'imagine que vous souhaiteriez chasser ce complexe, mais au-delà, hein, Mamadou Mbodge, on a un autre témoignage là de Francis de Libreville au Gabon, elle aussi a deux enfants, le ventre plus rebondi après une deuxième grossesse, et elle porte elle carrément une gaine, hein, pour comprimer ses rondeurs, d'ailleurs elle explique que c'est désagréable, ça lui fait mal et ça la fait transpirer. Autour d'elle, les commentaires sont plutôt bienveillants, mais elle, Francis, ne veut pas non plus accepter ce changement. On a deux jeunes mamans qui sont passées du corps d'une jeune fille au corps d'une mère et qui ont du mal à l'accepter, Mamadou Mbodge. Qu'est-ce que vous en dites?
Il faut qu'elles apprennent à faire le deuil un peu de la vie d'avant. Je veux dire, après avoir été une jeune fille, devenir mère de famille volontairement, devenir mère de famille plus d'une fois et vouloir retrouver le corps qu'on avait à l'âge de 15, 16 ou 17 ans avant le mariage, c'est pas réaliste. Il faut déjà donc faire le deuil de ce corps d'avant, avoir un peu plus d'indépendance par rapport à la mode, éviter les tenues serrées qui traduisent une sorte de déni, faire le deuil des vêtements qu'on portait avant, essayer d'avoir des activités sportives, revoir son alimentation, éviter de se focaliser sur son ventre, essayer de vous appuyer plutôt sur ce que vous avez bâti autour de vous, la personne que vous êtes, qui ne peut plus résumer son identité à ce ventre gonflé ou à ce poids, voir des kinésithérapeutes s'il le faut ou même des massages à proximité, périodiques. C'est dire que ce que vous faites, ce que vous êtes devenu est plus important que ce paraître d'hier que vous cherchez à encore retrouver ou à garder. Ce n'est pas possible.
Accepter le changement de statut, tout simplement.
Tout simplement.
On vous remercie beaucoup, hein, Danaba. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et on vous remercie également, Mamadou Mbodge, un grand merci pour toutes ces réponses aux auditrices de Priorité Santé. On vous souhaite une excellente fin de journée à Dakar.
Merci beaucoup.
Et ce rendez-vous pour conclure notre émission avec le reportage et le podcast Carnet de Santé de Charlie Dupio. C'est au Togo que nous retrouvons maintenant Thérèse dans sa clinique mobile. Elle et son équipe mettent leur savoir-faire au service des futures mamans. Et ce podcast, nous vous invitons à le retrouver sur les sites et applications de RFI. Tout de suite, un avant-goût.
On plie nos nattes. Madeleine, on va plier la natte.
Il fait jour.
Le travail va commencer. On range.
Chaque matin, Thérèse se réveille à 6 heures. Elle ouvre les yeux dans son camion, ou plutôt dans la clinique mobile dont elle est la responsable.
Okay. C'est ici nous dormons, avec nos nattes étalées.
Thérèse est ce qu'on appelle une sage-femme mobile. Elle se déplace de village en village dans la région de Dapaon, tout au nord du Togo, pour consulter les patientes, la plupart du temps des femmes enceintes.
On installe le lit.
C'est un lit gynécologique.
Oui. Et on utilise ça pour examiner les femmes, pour la consultation prénatale et le PFA, la planification familiale.
Nous sommes dans le village de Corientré, à plus de 50 km de Dapaon, la plus grande ville des environs. Dans ce village, il y a bien un dispensaire, mais il n'y a pas de sage-femme, seulement une accoucheuse. Alors Thérèse est très attendue.
Nous avons quelques femmes qui nous attendent.
Donc là, qui font la queue à côté du camion.
À côté du camion. Donc, elles vont rentrer une à une.
Bon, étant donné que nous sommes deux sages-femmes, donc je prends les femmes en consultation prénatale et l'autre prend pour la planification familiale. Bon, on peut commencer. Ok, madame, Afrodobi, Sosofa. Ok, je l'invite à monter. Il dit d'être prudente avec nos escaliers.
Et les consultations que vous proposez ici, est-ce que c'est gratuit pour elle?
C'est gratuit, même les échographies sont gratuites. Il faut les convaincre pour qu'elles puissent en parler à d'autres femmes, surtout dans les marchés, à la maison. Donc, la sensibilisation continue quoi, à travers les femmes qui viennent chez nous aussi.
Et est-ce qu'il y a des villages où vous n'allez pas parce qu'avec le camion, ce n'est pas accessible?
Il y a des villages qu'on ne peut pas aller. Il y a les routes qui ne sont pas bonnes. Et le camion est trop lourd, donc on ne va pas dans tous les villages.
Alors je vous laisse continuer à consulter et moi je vais essayer de parler à certaines femmes.
Moi, dis-toi, Jérémy. Bonne nuit, toi bien. Tu dis quoi? Ok, bonne suite.
Alors là, madame, vous êtes assise en dessous de l'avant du camion.
Ça va?
Ça va et vous?
Merci. Ça va bien.
Est-ce que vous connaissez Thérèse, la sage-femme?
Elle dit qu'elle voit, elle trouve que Thérèse est très gentille. Depuis qu'elle vient, tout ce qu'elle dit, après l'accouchement, elle voit que c'est ça. Parlant du sexe, en fait, lorsque Thérèse fait l'échographie, après elle se rend compte que tout ce que Thérèse a dit, c'était ça, le mois d'accouchement et tout. Elle trouve que c'est vraiment une dame très gentille.
J'ai une famille, un mari avec deux enfants qui sont à Dapaon. L'aîné, c'est un garçon, il a 15 ans, il fait la seconde. Et la petite, c'est une fille, elle fait le CP2, cours préparatoire deuxième année, elle a 7 ans.
Vous arrivez à suivre ce qu'ils font à l'école?
Si c'est au cours de la semaine, c'est un peu difficile pour moi.
Et comment votre mari vit la situation, le fait que vous soyez tout le temps en vadrouille pour la clinique mobile?
Au début, bon, il n'a pas été pour quand même, parce qu'il trouvait que j'étais trop absente à la maison. Je n'étais pas proche des enfants. Enfin, il a compris et il a vu que c'est pour le bien de nous tous. C'est ma volonté de vouloir travailler dans les villages et puis il a accepté. Mon moment préféré dans la journée, c'est quand je fais l'échographie aux femmes. Je finis de faire l'échographie, je dis à la dame, « Madame, ton bébé va bien, le bébé est bien couché et le bébé va sortir par la tête. Et tu vas coucher une fille ou tu vas coucher un garçon, il n'y a pas de problème. » Elle sourit, elle est contente et ça me réjouit moi quand même. Je suis très fière d'être sage-femme avec la clinique mobile. C'est ma place.
Carnet de santé, reportage signé Charlie Dupio en partenariat avec le Fonds français Muskoka, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Vous retrouvez ce podcast sur les sites et applications de RFI et vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcast pour ne rater aucun épisode. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussa Maké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et avec nous aujourd'hui Jean-Philippe Thury. Lundi dans Priorité Santé, nous allons parler de l'alimentation et du bien-être. Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. Et oui, bien manger pour ne plus déprimer. À lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sonoubank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.